France Musique. Les grands entretiens. Rodolphe Bruno Boulmier.
Je suis Mozart Obaskite, né en Lituanie. Je suis pianiste, concertiste.
J'aimerais qu'on parle de l'homme de votre vie. Est-ce que vous savez qui est l'homme de votre vie, un compositeur aux vies multiples que vous avez le plus enregistré?
Là, il faut que je fasse attention parce que quand vous dites l'homme de ma vie, il faut que je sache de quoi je parle. Au sujet de celui-là qui est né il a 200 ans ou au sujet de celui-là qui vit à mes côtés et dont je suis extrêmement heureuse de l'avoir. Si on parle de Franz Liszt, c'est en quelque sorte un modèle pour moi à tous les points de vue. C'est un personnage extraordinaire, multiple. Je suis tombée amoureuse de Liszt à 11 ans. J'étais une petite fille qui a dit « je vais jouer cette sixième rhapsodie de Liszt coûte que coûte », même si ma main n'est pas encore assez grande pour les octaves. Et cette personnalité parfaite, Liszt est d'abord extrêmement attirant comme personne, comme homme avec la grande H. C'est quelqu'un qui avait une générosité inouïe, bonté, noblesse, et ce qui se reflète dans sa musique et dans sa manière d'être. Ça reste un exemple, ça reste un énigme. On a l'impression qu'il vit toujours, parce qu'il a ouvert plein de portes dans les musiques et dans le comportement humain.
Peut-être qu'on peut parler d'une œuvre, Les années de pèlerinage, que vous avez beaucoup joué, parfois en 3 concerts, en une seule journée. C'est un cycle gigantesque qui, je trouve, représente bien aussi toutes les facettes de Liszt. La virtuosité, le romantisme, le voyage, l'amour, l'aspect vers l'au-delà, le côté aussi qu'on sent très bien dans la 3e année, spirituel, presque religieux. Ce cycle est important pour vous, vous le jouez souvent, c'est une œuvre emblématique, je crois.
Oui. Je le joue, je le vis, plutôt on devrait dire. Je le vis sur scène. Et c'est très émouvant vivre ces 3 années sur scène à un seul jour. C'est le concentré d'une vie à un seul jour. Puisque la première année était écrite par Liszt jeune, amoureux de Marie Dagout, en faisant le voyage en Suisse. Et le cycle se termine avec les cloches de Genève à la naissance de sa fille Blondine. Et quand je vis à Genève, quand je passe devant sa maison, j'ai l'impression qu'il est là. J'imagine que c'est la fenêtre au 2e étage. Je l'attends apparaître. L'année Italie, c'est Liszt qui est admiratif envers des autres créateurs. Il essaie à travers Dante, comprendre l'existence humaine. à travers les sonnets de Pétrarque, comprendre le miracle de l'amour. Et troisième année, c'est l'année spirituelle dans laquelle, dans les jeux d'eau de la villa d'Est, il y a un épigraphe qui dit « L'eau que je te donne deviendra en toi une source qui t'emmènera jusqu'à la vie éternelle. » Donc c'est l'apothéose de la vie, apothéose de l'amour terrestre lié avec l'amour spirituel. Je me rappelle souvent quand j'ai joué ce cycle, et surtout troisième année, à la villa d'Este, dans le lieu où il a écrit ça. Je ne pouvais pas me partir de cet endroit-là. Je vivais là-bas. Surtout en visitant sa chambre, où il avait une sorte de terrasse qui menait vers au-delà, je dirais presque. C'est comme un trap pour l'avion. C'est ça qui permet de comprendre l'élan de dernière pièce qui s'appelle Sursum Corda pour que nos cœurs se lèvent. Oui, Liszt reste un personnage absolument merveilleux, positif, éternel, extrêmement puissant pour moi.
Qui demande un engagement total de la part de son interprète. Je crois qu'on peut pas jouer Liszt en étant un peu retenu ou en ne s'abandonnant pas totalement à cette musique. Et vous avez dit aussi une fois que chez certains musiciens, ça peut débloquer aussi quelque chose, le fait de travailler Liszt, il me semble, par rapport au lien qu'on peut avoir au répertoire, au piano, la peur aussi d'appréhender cet instrument ou la scène. C'est presque un compositeur qui vous aide en fait.
Tout à fait. Et je trouve qu'on n'ose pas jouer Liszt justement parce qu'on a peur de ne pas réussir. C'est vrai que jouer Liszt, c'est un exploit. Il faut être en quelque sorte un héros pour jouer Liszt. J'aime de temps en temps dire que c'est comme escalader d'une grande montagne. Il y a tellement de difficultés dans ses œuvres, difficultés techniques, qu'il faut investir énormément avant d'arriver jusqu'au sommet de la montagne. Mais c'est seulement sur le sommet de montagne qu'on peut voir le paysage. C'est là où on est libre, c'est là où on voit la beauté. Et après cet effort, il y a ce magnifique réconfort de la beauté.
Vous avez enregistré la sonate, vous avez enregistré les concertos, vous avez enregistré les études de concert, vous avez enregistré des transcriptions Liszt-Schubert récemment. Est-ce qu'il y a des œuvres de Liszt que vous n'avez pas encore osé aborder ou que vous n'avez pas encore à votre répertoire, vers lesquelles vous savez qu'elles vous attendent pour les années à venir?
Bien sûr. D'abord, l'œuvre est tellement immense que la vie suffira pas. Et là, certains musiciens qui réussissent, comme Leslie Howard, qui a enregistré tout Liszt. Mais c'est pas mon propos. J'ai pas envie de jouer tout Liszt. Je choisis mon Liszt à moi, que je trouve enrichissant pour moi et pour les autres. Et il y a toute une série de choses que je voudrais enregistrer ou jouer, peu importe. Pour enregistrer, j'ai très envie d'enregistrer les études transcendantes que je joue en concert, mais je n'ai pas encore enregistré. Et mon prochain disque va contenir deux œuvres orchestrales, Malédiction de Liszt et aussi la transcription de Wanderer de Schubert. Mais moi-même, je voudrais jouer les œuvres spirituelles de Liszt. Tout ce qui est légende, tout ce qui est balade, tout ce qui est harmonie poétique et religieuse. Évidemment, l'Iliade aussi, puisqu'il est à 53. J'ai fait quinzaine de mon répertoire. Donc, il y a plein de listes inconnues.
Mouzza Roubaskité, nous parlons en ce moment des disques, de vos disques. Il y a un disque dont j'aimerais qu'on parle un peu plus longuement et qu'on évoque aussi ses conditions, c'est Chostakovitch, les 24 préludes et fugues, un monument de la littérature russe qui avait d'ailleurs été créé par une pianiste femme, mais assez peu jouée. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre, de comment vous l'avez abordée, comment s'est fait l'enregistrement de cette œuvre si complexe, aussi si singulière?
C'est la musique qui est absolument incroyable. C'est les musiques significatives. C'est la musique qui cache plein de messages codés. J'ai appris ça à travers les maîtres qui m'ont enseigné presque en secret, qui disaient ici, ce sont les pas de KGB, ici, c'est les steppes de Goulag, etc. Donc, il avait plein de formules. Comme dans l'œuvre de Schumann, on reconnaît les groupettis de Clara ou des élans, des tournures amoureuses. Chez Chostakovitch, il y a plein de messages codés anti-soviétiques. Mmh. Et là, c'est une mine d'or et c'est génial de voir ça. À Moscou, j'ai travaillé quelques-unes, j'ai pas travaillé plusieurs pièces du cycle. Mais j'ai entendu en live par Tatiana Nikolaeva, évidemment. C'était une des professeurs de conservatoire de Moscou. Je le connaissais bien personnellement. Et quand on m'a proposé d'enregistrer le cycle, il fallait que je l'apprends. Je pensais que ce sera beaucoup plus facile, mais c'était extrêmement difficile. Parce que c'est quand même la musique polyphonique. Ces fugues, jouées à quatre, d'accord, mais jouées avec deux mains, avec une seule tête, c'est une casse-tête pas possible. Donc j'ai mis étonnamment très peu de temps, parce que j'étais comme dans une fièvre. Le projet se faisait pour centenaire de Chostakovitch, ça devait sortir en 2006. Et j'avais quelques mois pour le bâtir. Après, il avait l'enregistrement et je tenais énormément de le faire dans les pays de l'Est. Donc le pays de l'Est le plus accessible pour moi, c'est Lituanie. Donc j'ai enregistré à la Philharmonie nationale la nuit et tout revenait. Dans la nuit, on avait les souvenirs de ce qui s'est passé chez nous. Et après, il avait... Troisième partie, c'est réécoute et le montage. Donc, j'ai dit une fois, je crois que je peux répéter, j'ai fait ça en trois goulags, ce cycle. En goulag d'apprentissage, en goulag d'enregistrement et en goulag de montage. Mais c'est une œuvre fascinante. Et suivant goulag, d'ailleurs, c'était la commande de Radio France, le festival Radio France Montpellier, de faire le cycle en live. C'était encore une autre paire de manches. Parce que faire ce cycle en live à un seul jour, avec un entracte entre deux cahiers, c'était mon cauchemar de 6 mois. Je dormais plus, mais je travaillais avec un énorme bonheur, tout en vivant dans ces images-là que je connaissais bien.
Et on a envie de renoncer un moment ou pas? Parce que aller sur scène avec une œuvre aussi vertigineuse, ne l'ayant encore jamais donnée.
Je devais le donner 11 juillet, et donc... 11 janvier, je me suis réveillée au milieu de la nuit, assise, en disant « je ne peux pas le faire ». Et mon mari me dit « écoute, t'as fait le disque, écoute ton disque, C'est bon, ton disque, tu peux le faire. J'ai dit non, je ne peux pas faire en live, c'est pas possible. Mes nerfs vont lâcher parce que c'est quand même, c'est trop lourd. C'est trop lourd de messages et de tout. Et voilà, j'ai répété mes cauchemars, mes réveils nocturnes. Et après, les gens de la Radio France, ils ont dit, bah, t'as joué. Voilà.
Entretien de Mouza Roubasquité, France Musique.
J'aimerais, Mouza, qu'on parle aussi d'un autre moment important, puisque vous avez donné, je crois, la création mondiale du 4e concerto de Beethoven dans une version inédite. Vous pouvez nous parler de cette aventure ?
Ça, j'avais une énorme chance. J'ai joué à la maison de Beethoven, à Bonn, un récital Beethoven. Et dans la salle, il y avait le chercheur qui s'appelle Hans-Werner Küthen, chercheur des archives de Beethoven, qui se trouve la porte à côté, et qui était à ce concert, et qui m'a dit, écoutez, j'ai une œuvre que je voudrais vous montrer, une version de l'œuvre. Et il m'a amené aux archives, et il m'a montré le manuscrit de version de chambre de 4e concerto de Beethoven, qu'il a trouvé, qu'il a assemblé en 1996, vraiment hier. Il a trouvé dans les archives polonaises, dans les archives d'Allemagne de l'Est, ça s'était éparpillé. Et c'était une version qui était faite pour Prince Lobkowicz, qui était grand mécène de Beethoven, et qui était fait pour un quintet à cordes et piano. Donc, j'ai reçu cette version de la part de Hans-Werner Küthen et Je l'ai joué depuis des années et je joue ça très souvent. C'est une œuvre très spéciale. Il y a 80 différences par rapport à la version normale. Et pour vous dire, je l'aime plus que la version classique. Il y a une interaction avec l'ensemble des musiciens. Nous sommes 6, nous sommes tous égaux. Le piano est derrière le quatuor. Il y a les répliques qui sont réplique de musique de chambre. Il y a un autre climat que dans le concerto où soliste est plutôt usurpateur de tout le message. Et il y a beaucoup plus de partage dans cette version. C'est merveilleux.
Et Beethoven, c'est un compositeur important aussi pour vous. Vous jouez beaucoup les dernières sonates. C'est un compositeur que vous inscrivez aussi assez régulièrement à vos récitals.
Tout à fait. C'est aussi la veine listienne, Beethoven. Beethoven était extrêmement important pour cette alignée-là.
Thank you. pas parlé, Muzaru Basquité, de la musique de notre temps, mais vous avez rencontré des compositeurs, vous avez joué des œuvres, je pense par exemple à Penderecki, compositeur avec lequel vous avez travaillé, enfin en tout cas vous avez joué son concerto pour piano, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Ça c'est parti aussi de Beethoven, car j'ai participé plusieurs fois au festival Beethoven de Varsovie. Cracovie possède une énorme collection des manuscrits de Beethoven. Je suis allée par l'intérêt aux manuscrits et aussi pour jouer dans ce festival. Dans ce festival à Varsovie, j'ai rencontré maître Krzysztof Penderecki et son épouse Elżbieta qui dirige le festival. Je suis vraiment intéressée à sa musique. Et un jour, je l'ai demandé « Pourquoi vous écrivez rien pour le piano, maître ?» Il a dit « Écoute, dans le pays de Chopin, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Mais par ailleurs, je suis en train d'écrire un concerto pour le piano. J'ai dit « Non, mais c'est pas possible. » Alors, j'ai demandé les extraits, j'ai écouté, et là, j'ai compris que c'est mon concerto à moi. Et c'était le concerto dont le nom est « Resurrection », qui était écrit pour les victimes de 11 septembre, de cette catastrophe qui a changé le monde, de ce changement total de notre existence qui s'est passé à New York en septembre 2001. La dernière version de concerté date de 2007, où compositeur ne termine pas par la gloire et victoire de bien contre le mal, mais avec tout ce qui s'est passé depuis 2001, avec tous les autres catastrophes dues à ce monstre de notre temps, terrorisme, il a terminé par le terrorisme, par le retour des Boeing et de l'agressivité de début de ce concerto. Donc il a changé la fin en 2007, il a changé la conception de ce concerto. Donc, j'ai commencé à apprendre ce concerto dès que j'ai su son existence. Et j'ai commencé à apprendre, qui n'est absolument pas ma façon de faire, j'ai commencé à apprendre sans avoir le projet de le jouer, juste par amour. J'ai adoré cette musique. Et deux semaines après avoir commencé à travailler ce concerto, j'ai reçu un coup de fil de mon agent d'Amérique du Sud en disant « Écoute, on te propose un contrat dans quelques mois à Puerto Rico pour jouer un concerto totalement inconnu pour moi. C'est le concerto de Penderecki, Resurrection. » Je dis non, c'est pas possible. Alors j'ai pris cet engagement et deux mois après, j'ai dû jouer ce concerto à Puerto Rico. Et par la suite, j'ai rencontré maître Penderecki. Sous sa baguette, j'ai joué à Bogota. Je viens de le jouer à l'anniversaire de ses 85 ans à Varsovie, au mois de novembre dernier. Et je vis ce concerto comme je vis ma vie. Il y a de tout. Il a la beauté, il a le regret, il a la mort, il a la résurrection, il a les cloches de l'espoir qui sonnent pendant 2 minutes dans la salle émerveillée. Il y a la flexibilité des phrases de Chopin. Il y a toute une beauté d'aujourd'hui et d'hier là-dedans.
C'est son concerto, dit-elle à propos du concerto pour piano et orchestre de Krzysztof Penderecki que Muza Rubaskite a joué à plusieurs reprises en concert. Nous écoutions ici la version de 2015 donnée en Lituanie avec l'Orchestre Philharmonique National sous la direction de Maximiliano Valdés. Cette émission, que vous pouvez podcaster sur le site des Grands Entretiens, a été réalisée par Gilles Blanchard avec Raymond Albuy, Valérie Lavalard et Flora Sternadel.
À réécouter sur francemusique.fr.